Et si on changeait d'échelle? Si on prenait du recul? Et si on regardait la politique européenne et la politique avec des yeux d'Européens?
Sur le sujet des violences faites aux femmes, un tel changement d'échelle nous permet de nous rappeler que le 11 mai 2011, à Istanbul, a été signée une convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Il s'agit, au niveau européen, du premier instrument contraignant, offrant un cadre juridique complet pour la prévention de la violence, la protection des victimes, dans le but de mettre fin à l'impunité des auteurs de ces violences.
Sur le site internet du Conseil de l'Europe, dédié à cette convention, on peut lire ceci.
Aucune estimation pour l'Europe existe, mais de nombreux États membres commencent à multiplier les enquêtes pour mesurer l'étendue de la violence à l'égard des femmes au plan national. Bien que les méthodologies varient, une vue d'ensemble de ces enquêtes permet d'estimer que selon le pays, un cinquième à un quart des femmes sont victimes de violences physiques au moins une fois dans leur vie d'adulte et que plus d'un dixième d'entre elles subissent des sévices sexuels impliquant l'usage de la force. La majorité de ces actes de violence sont commis par des hommes dans leur environnement social immédiat, le plus souvent par des partenaires ou d'anciens partenaires.
Aujourd'hui, 18 pays, membres de l'Union européenne ou non, de la France à la Turquie, ont signé la convention. Celle-ci insiste beaucoup sur la prévention, en ce qu'elle peut sauver des vies.
Ainsi, les gouvernements qui acceptent d'être liés par la convention devront prendre les mesures suivantes. Former les professionnels qui sont en contact étroit avec les victimes. Mener régulièrement des campagnes de sensibilisation. Faire en sorte d'inclure dans les matériels pédagogiques des sujets tels que l'égalité des sexes et la résolution non violente de conflits dans les relations interpersonnelles. Mettre sur pied également des programmes thérapeutiques pour les auteurs de violences domestiques et pour la délinquance sexuelle. On voit ainsi que la mesure annoncée par François Hollande n'est qu'une adaptation de cette convention.
Mais l'intérêt de la Convention réside également dans l'évolution judiciaire qu'elle implique.
Elle définit et pénalise en effet les diverses formes de violence à l'égard des femmes et les États signataires doivent, éventuellement, si ce n'était pas le cas, introduire ces nouvelles infractions et crimes que la Convention définit. Parmi lesquels on peut citer la violence psychologique et ou physique, la violence sexuelle et le viol, la persécution, le harcèlement, les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, l'avortement ou la stérilisation forcée.
On le voit. Un cadre européen existe. Reste à intégrer ces dispositions à l'échelon national.
Parce que l'Union européenne, ce n'est pas que des technocrates bruxellois incompréhensibles ou une crise de la zone euro. Parce que l'Union européenne mérite mieux que l'image lointaine et souvent négative qu'en donnent la plupart des médias traditionnels. Jérôme, tu nous présentes régulièrement ta chronique Vue d'Europe. Alors tu as décidé, Jérôme, de t'intéresser cette fois-ci au cas du Royaume-Uni, alors pays qui a adopté le 8 mars 2012 un plan d'action pour lutter contre tous les aspects de la violence contre les femmes. Alors il contient 100 actions de lutte contre ces violences, alors que pour la seule année 2011, plus d'un million de femmes ont été victimes de violences conjugales en Angleterre et au Pays de Galles. Environ 400 000 ont été agressées sexuellement et 80 000 ont été violées. Alors le texte adopté par le gouvernement britannique, s'inspire grandement de la Convention européenne dont nous parlions à l'instant, et voir le Royaume-Uni, par les temps qui courent, adopter sans critique une décision ou une convention européenne est une chose assez rare pour être soulignée. Surtout dans le contexte actuel, où on évoque très sérieusement, outre-Manche, une sortie de l'Union européenne. Et c'est de ça, Jérôme, dont tu veux nous parler, n'est-ce pas?
Tout à fait, Thomas. Être ou ne pas être en Europe? Telle est la question qui se pose aux Britanniques depuis plusieurs années, mais plus singulièrement depuis un mois, où le débat fait rage sur toutes les lèvres outre-Manche. On connaît depuis longtemps la situation particulière de la Grande-Bretagne au sein de l'Union européenne. Poids lourd du point de vue politique et économique, mais toujours absent des principales réalisations de la construction européenne. Un pied dedans, un pied dehors. Mais elle se demande désormais s'il ne faut pas carrément mettre les deux pieds dehors. C'est Daniel Cohn-Bendit, encore lui, qui a mis le feu aux poudres début novembre en assénant, sans langue de bois, ce que beaucoup d'autres parlementaires européens pensent tout bas, et en se prononçant ouvertement en faveur d'un référendum sur l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union. Je suis pour qu'une fois, un jour ou l'autre, on organise un référendum en Grande-Bretagne. Ils doivent décider s'ils deviennent le 51e État des États-Unis ou s'ils sont membres de l'Union européenne. Et de déplorer l'attitude des travaillistes britanniques qui font monter les enchères face à leurs adversaires conservateurs au petit jeu « plus eurosceptique que moi, tu meurs » pour mieux séduire une population qui connaît une crise de confiance toujours grandissante vis-à-vis de l'Union. Il faut dire qu'ils ont eu fort à faire pour rivaliser. En mars dernier, David Cameron, Premier ministre britannique, a refusé de signer le traité budgétaire européen concocté par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, et à peine retouché depuis par François Hollande. Et en juillet, dans la perspective des prochaines élections législatives de son pays, pour se faire réélire, il a même évoqué la possibilité d'un référendum en Grande-Bretagne pour, je cite, « redéfinir les liens qui unissent son pays à l'Union européenne ». Même si lui-même n'est pas personnellement favorable, dit-il, à ce qu'on appelle outre-Manche le Brexit, comprenez le British Exit. Ce faisant, il mettait à mal la coalition inhabituelle actuellement en place au Royaume-Uni entre les Tories, majoritairement eurosceptiques, et les Lib Dems, les libéraux-démocrates, de Nicholas Clegg, son vice-premier ministre, la seule formation politique encore pleinement europhile du pays, qui s'était entendue en début de législature sur un statu quo sur les affaires européennes. Les uns étant plutôt europhiles, les autres plutôt eurosceptiques. Or, le 18 novembre, le journal britannique The Observer publiait les résultats d'un sondage. 56% des sujets du Royaume voteraient pour le retrait de l'Union et le petit parti UKIP, qui milite pour l'indépendance nationale, n'a jamais été aussi populaire. Si un tel référendum devait être organisé, le risque serait donc grand de voir la clause de sortie prévue pour la première fois par le traité de Lisbonne en 2009, être mise en œuvre. Et voilà que, lors du vote du dernier budget européen pour les années 2014 à 2020, le 23 novembre dernier, David Cameron a précipité les choses en brandissant son veto contre un budget qu'il jugeait trop élevé, de 1 060 milliards d'euros, alors qu'il ne souhaitait pas dépasser 930 milliards sous la pression des contribuables britanniques. Pourtant, c'est déjà un budget très faible, seulement 1% du PIB de l'Europe, et en recul par rapport aux 7 dernières années. Mais soumettant ses propres compatriotes à une cure d'austérité sans précédent en Grande-Bretagne, sa position s'explique au regard de décisions purement nationales. Je veux voir une rigueur et une discipline similaires à la nôtre dans l'Union européenne, a-t-il déclaré. Même permettre une hausse du budget égale à l'inflation est une position généreuse, compte tenu des efforts pour réduire les budgets nationaux, a ajouté Nick Clegg lors de sa rencontre avec Jean-Marc Ayrault, lequel a concédé que leur point de vue était encore éloigné. Quoi qu'il en soit, au terme de la rencontre entre les dirigeants européens, l'échec des négociations était patent. Il semble bien qu'ainsi, un mouvement vers la porte de sortie ait été enclenché, ou tout au moins, ce malheureux épisode a-t-il donné l'image déplorable habituelle désormais d'une Europe qui part un peu en lambeaux. Après les menaces de sortie monétaire de la Grèce, qui vient d'ailleurs une nouvelle fois de se voir effacer une partie de son ardoise de dette, et d'autres pays du Sud comme l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, on ne s'attendait pas à voir un tel signal venir du Royaume-Uni. Osons donc le dire, la sortie du Royaume-Uni serait un affaiblissement pour l'Europe, qui perdrait un membre très puissant, mais aussi un désastre pour l'influence du Royaume-Uni dans le monde et un désastre pour l'économie britannique, selon les mots même de l'ancien ministre de l'économie, Kenneth Clark. Quiconque a fait un peu d'histoire, comme Thomas,
et Louis aussi,
sait bien que les relations entre le vieux continent et la perfide Albion n'ont pas toujours été excellentes. Mais nous avons su nous unir quand l'essentiel était en jeu, par exemple dans la lutte contre le régime nazi. Le signal envoyé par une sortie du Royaume-Uni serait assurément celui d'une Europe qui n'a pas été soudée de manière indéfectible par le traumatisme de la guerre. Certes, le général de Gaulle lui-même avait refusé par deux fois, en 63 et en 67, l'adhésion de la Grande-Bretagne à la communauté économique européenne, y voyant un cheval de Troie américain. Et il a fallu attendre Pompidou pour que cela se fasse en 72, et que le train, donc, ait été pris en cours de marche. Certes, un divorce permettrait à l'Europe de poursuivre son intégration fiscale et sociale plus facilement et à Londres de poursuivre son entreprise de libéralisation de la City. Mais à quel prix ? Celui de renoncer au chemin parcouru ensemble ? J'aimerais quand même terminer sur une note d'espoir qui nous vient directement du Royaume-Uni, d'une figure généralement appréciée en France et qui compte, du moins en Europe, celle de Tony Blair qui était favorable, rappelons-le, à l'adoption de l'euro et qui montre que tous les travaillistes ne sont pas sur la même longueur d'onde lorsqu'il déclare « Cela constituerait une erreur monumentale que de nous détourner de l'Europe et de perdre ainsi une position cruciale de pouvoir et d'influence. Reprise en cela par son successeur à la tête du Labour, Ed Miliband. Nous constatons la profonde inquiétude de nos partenaires européens qui pensent que la Grande-Bretagne est dans la salle de départ. Pour ceux d'entre nous qui, comme moi, dit-il, sommes passionnément attachés à notre place dans l'Union européenne, nous ne pouvons rester silencieux. Je ne laisserai pas la Grande-Bretagne se diriger, tel un somnambule, vers la sortie de l'Union européenne. Alors, l'Anglais renoncera-t-il à se bouter de lui-même hors d'Europe? Let's wait and see.
Merci pour cette note d'espoir et cette note britannique. Merci Jérôme.